Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, avec aujourd'hui Loïc Frappsoz et Pierre-Yves de Rolin à la technique et assisté de Sophie Ledoré, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Caroline Lebossé qui réalise cette émission. Allez, une humeur tendre et légère avec au menu ce week-end du 1er mai au choix. Comptez les clochettes de Muguet ou les manifestants dans la rue. Assister au cirque aérien des martinets, des hirondelles ou bien se balader à pied avec ou sans banderole. En évitant si possible les produits de la catégorie anxiogène, la grippe porcine par exemple, un virus globetrotter citoyen du monde qui a fait la une de nos journaux du monde entier pendant que chacun dans son coin fait l'inventaire des provisions de masques et de traitements antiviraux. Que cette fois-ci, ce n'est pas un exercice, et bien évidemment, on se la joue en solidaire au niveau de notre petite planète, en partageant les infos, les médicaments, qu'on luttera efficacement contre cette épidémie qui nous arrive par avion du Mexique, des États-Unis ou d'ailleurs. À dire vrai, peu importe le pays, les poules pondeuses élevées en batterie, et les gens en bon sur pattes qu'on engraisse à la chaîne dans les usines à viande, on le sait, c'est pas une exclusivité mexicaine, parce que ces animaux, pas bien du tout dans leur peau, qu'on gave d'antibiotiques et qu'on vaccine à tour de bras pour compenser le piteux état de leur défense immunitaire, ça vous fait de véritables bouillons de culture pour les virus en tout genre. Ils adorent ça, les virus. Bref, et si la grippe porcine, c'était un retour de manivelle de la stratégie de réduction des coûts qui fait le bonheur des groupes alimentaires. La grippe du jambon low cost, en quelque sorte. Hein, on va en parler dans quelques instants. Retour en arrière, c'était le 4 novembre 2008. Là, vous vous rappelez, c'était l'élection d'Obama. Et bien, de l'autre côté de la frontière mexicaine, chez les gringos de Californie, on vote aussi ce jour-là sur un sujet tabou au pays de la bidoche rapide et pas chère, la défense des animaux d'élevage. Verdict des unes, je cite, « Les vaches, les poules pondeuses et les truies doivent pouvoir se coucher, se lever, étendre leurs pattes ou leurs ailes et se retourner dans leur enclos. » Après l'Union européenne qui, rappelons-le, prévoit la suppression des cages à poules de base d'ici 2012, eh bien on se réjouit de constater des avancées sur cette notion. Nos amis les bêtes sont capables de souffrir, figurez-vous, quand on les maltraite. Et oui, ça commence à faire son chemin dans les têtes. Et cette attitude peu répandue chez l'espèce humaine, et qui nous évitera peut-être au passage quelques futures pandémies, tout le mal qu'on lui souhaite, c'est d'être contagieuse. Alors face à cette grippe, information bien sûr bien traitée par France Inter, informer, alerter, ne pas non plus stresser tout le monde, tel le cochon dans son 1 mètre carré cuisine. Et ça va nous amener à parler un petit peu des conditions d'élevage avec vous, Christophe Labbé. Christophe Labbé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Point et puis vous avez écrit un ouvrage assez prémonitoire aux éditions Ouébec avec Jean-Luc Porquet, Olivia Recazin et Vosnia qui s'appelle « Vive la malbouffe » qui marche très très bien. Je parlais de l'origine du foyer au Mexique. C'est vrai qu'on a un peu un point d'interrogation. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui?
Aujourd'hui, en fait, on a presque la quasi-certitude que le creuset de l'épidémie, c'est un petit village au Mexique, un petit village de 3000 habitants, qui est un village connu pour sa concentration d'élevage industriel en porc, puisque c'est un petit village de 3000 habitants qui élève chaque année 950 000 porcs industriels par an, et ce par une filiale du numéro 1 du cochon aux États-Unis. Et les premiers cas sont apparus dès mars dans ce village.
Et depuis longtemps, les scientifiques nous disent que les élevages industriels sont des véritables laboratoires de virus mutants.
Ça fait quasiment 12 ans, une douzaine d'années que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme en disant que les élevages industriels, et en particulier les élevages de cochons, sont d'incroyables creusets pour la recombinaison des virus de toutes sortes. Et à tel point que l'ONU, un comité d'experts de l'ONU, s'était saisi de la question et avait demandé une surveillance accrue sur les élevages. On croyait même à un moment donné qu'un foyer pandémique pouvait partir de l'Europe, et pourquoi pas de la Bretagne, à un moment donné, qui était montré du doigt comme un risque potentiel.
Alors évidemment, donc là, les éleveurs sont un petit peu montés au créneau. On va juste rappeler que le problème n'est pas par la viande, c'est pas par là que ça va se passer. Christophe Labbé, vous êtes allô. Oui, effectivement,
oui,
non. Voilà, non, simplement dire effectivement que c'est pas par le, c'est en ingérant de la viande que évidemment ce virus va
non,
passer.
Non, pas du tout. C'est pas du tout en ingérant de la viande. Mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est que le cochon a des récepteurs, plusieurs récepteurs sensibles aux virus animaux, aux virus aviaires, mais aussi virus humains. Et donc ensuite, il récupère ces virus et il les mélange.
Oui, c'est ça. Et donc derrière tout ça, c'est quand même aussi les conditions d'élevage, hein, que vous pointez un petit peu.
Eh bien, le problème, si vous voulez, c'est que dans les conditions d'élevage, on le sait, il y a eu tout un tas d'études qui ont été menées, favorisent le stress des animaux. Vous avez des animaux que vous faites pousser deux fois plus vite que des animaux lambda, et ce faisant, vous créez des animaux qui sont immunodéprimés, c'est-à-dire avec des défenses immunitaires raplapla. Et ces défenses immunitaires, plus vous avez des défenses immunitaires si vous voulez affaisser, plus vous favorisez l'expression des virus.
Alors merci à vous Christophe Labbé, on voulait faire un petit peu ce point parce que dans les médias on n'a quand même pas trop entendu parler effectivement des conditions d'élevage. Moi je rappelle donc cet ouvrage et vous reviendrez au mois de juillet dans Tout s'explique qui s'appelle Vive la malbouffe, hein, que vous avez donc écrit aux éditions Webec. Merci à vous, je pourrais citer d'ailleurs aussi Mauvaise nouvelle de la chair, on avait reçu Marie Rouanet qui elle était davantage sur les conditions d'élevage chez Albin Michel et c'était aussi un excellent bouquin. Merci à vous Christophe Labbé. Et Jean-Marie Pell, on va changer de registre là. Oui, vous allez voir. C'est peut-être pas exactement l'heure, mais en tout cas, on va prendre un petit thé avec vous. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va parler de drogue. Hein, parler de drogue et en parlant du thé. Alors, beaucoup de gens vont être surpris. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Le thé est une drogue. Pourquoi d'abord ?
Parce qu'il contient de la caféine, voilà. Et donc une substance très active. Et il contient plus de caféine que le café. Et c'est par-dessus le marché la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Plus que le Coca-Cola.
Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles.
Alors ce thé vient de l'Extrême-Orient. Il faut savoir qu'il y a les grandes drogues à caféine, il y en a trois. Il y a le café, qui vient d'Éthiopie, donc d'Afrique. Il y a le chocolat, qui vient d'Amérique centrale. Et puis il y a effectivement le thé, qui vient de l'Extrême-Orient. Alors il y a deux variétés de thé. Il y a le thé vert et le thé noir.
Allons-y.
C'est le même thé, c'est la même plante, mais les feuilles n'ont pas été traitées de la même manière.
Donc au départ, c'est la même chose.
C'est la même plante, absolument. C'est une plante de la famille du camélia.
Excusez-moi, non, par analogie, je pense à l'olivier, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des oliviers qui font des olives vertes et puis des olives noires.
Oui, c'est un peu ça aussi. Le thé, il est ou vert ou noir. Quand il est vert, c'est parce qu'on a eu la précaution d'empêcher qu'il fane. On le met dans de la vapeur d'eau et les enzymes sont tuées. Donc la composition ne bouge pas. On appelle ça la stabilisation. Les feuilles du thé vert sont exactement identiques aux feuilles de thé avant qu'on les récolte.
D'accord.
Par contre, le thé noir, c'est pas pareil. Il subit un traitement. On malaxe les feuilles. On met en contact les enzymes avec les composants chimiques du thé. Ces composants chimiques du thé sont transformés. Ils se forment des tanins. Qui ont une couleur rouge et qui donnent à l'infusion sa couleur rouge caractéristique du thé noir. Alors cette boisson, tout d'un coup, a révélé des propriétés intéressantes. Surtout le thé vert, beaucoup moins le thé noir. Il y a eu toute une série d'études qui ont paru et on a dit que, par exemple, le thé était un médicament préventif contre l'artériosclérose. Alors, ce sont des chercheurs japonais qui ont mené une étude sur ce thème. Et puis ensuite,
rappeler ce qu'est l'artériosclérose.
L'artériosclérose, c'est le dépôt de matière biologique, de cholestérol,
dans les artères.
Dans les artères, qui bougent petit à petit les artères.
D'accord.
Hein, c'est ça. Et puis ensuite, on a vu que le thé vert diminue aussi le taux de lipides dans le sang, y compris d'ailleurs le cholestérol. Il y a eu plusieurs études qui sont arrivées à peu près en ce domaine au même résultat, avec une petite difficulté, c'est que pour qu'on puisse mettre ça en évidence, il faut avoir une assez forte consommation de thé vert.
Est-ce que c'est 1 demi-litre ou 1 litre par jour ?
Non, 5 tasses.
5 tasses.
D'accord. Alors ici, il faut évidemment voir si on est sensible ou non à la caféine. Ça, c'est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles, des gens qui prennent une goutte de café qui ne dorment plus pendant 2 jours. C'est variable d'une personne à l'autre. Mais si vous supportez sans difficulté le thé vert, je crois que c'est en effet prudent de consommer 5 tasses de thé vert. Alors il y a aussi quelque chose qui est arrivé plus tard, une autre information, on a montré qu'au Japon, les cancers de l'estomac et du côlon étaient moins nombreux dans les régions qui produisent du thé vert, et plus étrange encore, le cancer du poumon est moins fréquent au Japon qu'aux États-Unis, alors même que les Japonais consomment plus de cigarettes, fument davantage. Et on pense qu'il y a une protection du fait que l'on y consomme effectivement beaucoup de ce fameux thé vert. Donc ici, nous sommes devant un aliment, une boisson, qui agirait en neutralisant les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont les résidus du fonctionnement de l'organisme. En fait, c'est les déchets de l'organisme. Et ces déchets entraînent les dégénérescences des cellules, et en particulier le cancer. Et donc, si on neutralise ces radicaux libres par les constituants précisément du thé vert, eh bien, on a un effet protecteur contre toute dégénérescence tissulaire et en particulier contre le cancer. Alors, moi, je n'ai pas fait l'essai sur moi. Je n'ai pas non plus le cancer.
Non, non. Enfin, vous avez essayé des tas de trucs, de toute façon.
J'essaie
vous
souvent.
Êtes un adepte du millepertuis, d'une gicobiloba.
J'essaie, bon, gico, je prends toujours. Ouais. Oui. Mais je n'ai pas essayé le thé vert. Mais je crois que c'est sérieux. J'avais bien étudié cette question. Et je crois que c'est intéressant. En tout cas, on peut le conseiller. Alors maintenant, il peut se trouver que vous n'aimez pas le thé. Alors, si vous n'aimez pas le thé, vous avez toujours la possibilité de vous rabattre sur le vin rouge.
Oui.
Un verre de vin rouge par repas.
Voilà, pas plus.
Un verre de vin rouge par repas protège les petits vaisseaux sanguins et donc la fameuse circulation périphérique. Mmh. Bon, c'est pas la peine de le prendre en pilule. C'est mieux de le prendre comme ça. Le médicament est offert sous sa forme la plus séduisante.
Très bien, donc on était parti sur le thé, on arrive sur le vin rouge, tout est normal. Merci beaucoup Jean-Marie, bon thé, hein,
voilà. C'est
peut-être pas encore l'heure tout à l'heure, mais
bon thé divine.
Bon thé divine, il est en forme. Et donc on vous retrouvera la semaine prochaine.
Au revoir, absolument, Jean-Marie. Au revoir Denis, au revoir à tous.
CO2 Mon amour, Denis Chessou.
Te souviens-tu d'un jour de septembre où il avait tant plu? Les cahouets rouges dans la Renault 12 ont quitté Londres sans toi.
Sister.
Émilie Loiseau sur France Inter dans C'est haut de mon amour, choisi par Emmanuel Chupin. C'était donc Sister. J'ai pas eu le temps avec tout ça de vous donner un petit peu le menu de cette émission. Ça va être une émission initiative, donc avec des gens qui font. Donc on va partir dans quelques instants dans le nord de la France. Nous rejoindrons le vice-président du club des villes cyclables. On vous emmènera dans vos jardins pour que vous pratiquiez de la science participative. Puis on terminera par notre séquence carton rouge, carton vert. Alors tout de suite, on va construire une maison avec un garçon qui s'appelle Thierry Touvenot. Thierry, bonjour.
Bonjour Denis.
Vous avez écrit, Thierry, journal d'une construction écologique aux éditions Minerva. Et là, on s'est dit que beaucoup de personnes qui nous écoutaient, évidemment, rêvent un peu de construire leur maison. C'est un peu, je dirais, le carnet de bébé hein, de cette maison que vous avez voulu faire.
Voilà, c'est le journal d'une naissance,
ouais.
Effectivement, après... Là, c'est un peu plus de 9 mois. Il nous a bien fallu 2 ans pour cette aventure, à la fois pour construire la maison et puis écrire le bouquin qui raconte l'histoire.
Alors, on est dans un coin superbe du département de l'Isère. On n'est pas très loin des lacs des Sept-Clos. On est dans le massif du Belledonne. Et la première grande chose, c'est l'orientation. D'où ce qu'on appelle une maison bioclimatique. Quelques rappels au départ. Qu'est-ce qu'une maison bioclimatique ?
Disons que les grands principes d'une maison bioclimatique, c'est déjà orienter correctement la maison. En orientant bien la maison donc au sud, on peut déjà gagner 20% au niveau des économies d'énergie, tout simplement, alors que ça ne coûte rien de plus. Et puis après, il y a des techniques spécifiques à la construction bioclimatique, par exemple faire une serre bioclimatique, donc de façon à maximiser en fait les apports solaires. Et nous, dans notre cas, il se trouve qu'on a fait une serre circulaire, enfin demi-circulaire, de façon à pouvoir capter les apports du soleil du matin jusqu'au soir.
Thierry Touvenot, dans cette aventure où on voit donc naître pas à pas évoluer cette maison, le gros œuvre, que l'on comprenne bien, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait ?
Alors, ce qu'on a fait faire, c'est tout le gros œuvre, donc la charpente et la maçonnerie, en particulier par une entreprise, une petite scope écologique donc sur Grenoble qui s'appelle Caracol, que je salue. On a fait faire aussi l'isolation et puis tout ce qui est technique, comme par exemple l'électricité. Et après, on a fait une grande partie de ce qui reste, et c'est pas mal, donc tout ce qui est finition, une grande partie du bardage, on a fait des murs en copeaux-bois, on a fait des enduits terre, les enduits chauds, tout le rejointoiement extérieur, enfin on a fait beaucoup de choses à l'intérieur.
On va décliner les matériaux, ce qu'on appelle les matériaux premiers, qu'est-ce que c'est ?
C'est tout simplement en fait prendre des matériaux qui sont peu transformés ou pas transformés, donc qui sont vraiment directement naturels, on pourrait dire. Un exemple dans notre cas, on a pris beaucoup de terre en fait du terrain, c'est-à-dire qu'on a fait des tests avec la terre que nous avions sur le terrain lui-même, et on s'est rendu compte qu'elle était suffisamment argileuse pour d'une part l'utiliser pour faire le rejointoiement à l'extérieur, donc pour combler les trous qu'il y avait dans les murs de la grange au départ, et puis aussi utiliser cette terre pour faire des enduits.
On est dans un pays de bois, donc on utilise, j'imagine bien, aussi, alors, qui les épicéas ou bien les feuillus.
Alors, on a beaucoup utilisé, effectivement, de bois dans notre construction, à la fois pour la charpente, mais aussi pour l'ossature bois. Donc, on a pris soit, effectivement, des résineux, donc de l'épicéa ou du sapin qui venaient directement de la région, soit on a pris du Douglas pour la construction, qui a l'avantage d'être un bois qui est très solide et qui est aussi très résistant aux agressions des intempéries, des insectes ou des rongeurs.
Matériaux premiers, matériaux recyclés à présent, surtout pour l'isolation, qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors pour l'isolation, on est parti sur de la ouate de cellulose. Donc le principe, c'est très simple.
Papier journal,
voilà, papier journal, en fait. Donc on récupère le papier journal, on l'agglomère et en fait on le projette dans l'ossature bois ou dans les toitures.
Aussi bien les bonnes que les mauvaises nouvelles, d'ailleurs.
Voilà. Et donc on a pris de la ouate de cellulose qui vient d'Angleterre. Donc en fait, il y a un petit bout du Guardian ou du Sun dans nos murs.
Quand même,
voilà. On a aussi veillé à prendre du bois qui soit labellisé FSC quand on le pouvait.
Oui.
Donc par exemple, on commence à trouver les enseignes de bricolage commence à le proposer des portes intérieures, par exemple en sapin FSC. Et puis on a aussi pris pour les huisseries du pin sylvestre PEFC, qui est un autre label en fait du bois.
Alors Thierry Touvenot, avec votre compagne, vous êtes donc retrouvés dans ce massif du Belledonne. D'abord, le lieu est très beau. Vous avez une vue extraordinaire aussi sur la Chartreuse, qui est juste en face de vous. Et peut-être quand même que cette notion de beauté permet d'élever tout le monde, à la fois la maison, mais aussi les gens qui y travaillent, notre conscience. Ça permet quand même d'aller un peu plus haut et un peu plus loin.
Oui, moi, c'est chemin faisant. C'est vraiment, dans cette aventure, ce qui est venu, c'est que Certes, l'écologie, on le sait, hein, c'est aussi une réflexion sur les techniques, sur les matériaux qu'on emploie, mais moi, il m'est apparu de plus en plus que le fait de concevoir une maison ou de concevoir un produit qui soit beau, qui soit intelligent, qui soit bien foutu, qui soit fonctionnel, bah oui, quelque part, ça participe de l'écologie, à mon sens.
Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que dans le coût global, il y a le foncier, il y a évidemment le coût de la construction. C'était quoi le rapport entre les deux ?
Bah, moi, ce que j'ai tenu à faire, en fait, dans le bouquin, c'est vraiment donner une sorte de vérité des prix écologiques. C'est-à-dire que c'est chapitre par chapitre d'indiquer combien ça a coûté pour les matériaux, pour les artisans qui ont travaillé sur la maison, etc. Et en fait, nous, on a essayé de mettre une bonne part d'autoconstruction dans la maison.
Mahut et de bâtons, de branches et mahut, à pavés et quais, au son du violon, des danses je fais.
Donc on a pas mal participé aux travaux, donc ce qui fait que ça nous a permis de ramener le coût de la construction de la maison à un niveau qui est en fait assez comparable au niveau, par exemple, du prix au mètre carré, de ce que ça peut être pour une maison qui est classique, on va dire, avec en plus tout un tas d'équipements, donc chauffe-eau solaire, une très forte isolation, et donc qui ramène en fait la maison à un prix qui est tout à fait comparable à d'autres. Effectivement, c'est un investissement qui est important au départ, mais ensuite, dans la mesure où on se chauffe par exemple au bois, qui est aujourd'hui le mode de chauffage le moins cher en fait, qui est un des moins chers aujourd'hui, et donc on se retrouve avec une serre en plus bioclimatique, avec des besoins en termes de chauffage qui sont extrêmement réduits. Oui. Donc on doit pouvoir chauffer pour à peu près 300 à 400 euros par an, ce qui est vraiment très peu pour une maison comme celle-là.
Alors les gens vont vous demander, bon, en gros, combien de mètres carrés ? On a bien compris que vous étiez parti effectivement sur une grange, ça vous est revenu à combien ? Mais vous avez très bien dit, à la fois des entrepreneurs, mais aussi de l'autoconstruction. Ça fait combien ça au total ?
Alors au total, le budget de la construction de la maison, on en est arrivé à 250 000 euros.
D'accord.
Pour une maison qui fait à peu près 200 mètres carrés. Sachant qu'on a beaucoup d'activités, on compte non seulement y habiter, mais aussi on travaille à domicile et donc on souhaite aussi héberger des activités justement autour de l'écologie, donc en faire un centre de rencontres et de séminaires. Et donc, ça fait un coût au mètre carré qui est de l'ordre d'à peu près 1200 euros du mètre carré, ce qui, comme je le disais, est vraiment tout à fait correct et tout à fait bas, en fait, par rapport à des maisons comme celle-là. Quoi.
Qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure ?
Il y a quelque chose d'un petit peu, comment dirais-je, affectif, hein, puisque je me suis installé en fait dans une région où mes grands-parents étaient agriculteurs. Ma mère est née juste à côté, mais j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance là-bas. Donc c'est déjà revenir un petit peu aux sources. Et puis vraiment, ce qui m'a beaucoup plu dans cette aventure, c'est que justement, c'était une aventure pas que technique, mais vraiment humaine aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé avec l'aide d'artisans, on s'est beaucoup impliqué dans la construction. On a beaucoup été aidés par des gens, des proches, des amis qui sont venus mettre la main à la pâte sur la maison. Donc c'est vraiment ce côté un petit peu aventure humaine qui m'a bien plu. Quoi.
On sent bien que votre initiation à la nature, elle s'est passée là, parce que j'ai quand même rappelé aussi que vous êtes l'auteur d'un formidable bouquin qui s'appelle Planète Attitude, hein, lorsque vous étiez au WWF.
Oui,
et donc qui continue aussi donc, sa vie avec aussi Planète Santé.
Oui.
Et puis là, donc, on vous renvoie sur le journal Une construction écologique, donc de Thierry Touvenot aux éditions Minerva. Merci à vous, puis salut le Beldone. À bientôt Thierry.
Merci Denis.
Évidemment, vous allez me dire, c'est pas forcément pour tout le monde. Certes, mais c'est pas un truc de bobo. Hein. Comprenez bien, parce que ça c'est l'argument qui est toujours un peu facile. Non, c'est pas ça du tout. Et c'est quand même truffé d'idées. Alors, on va changer de lieu. On va aller donc du côté de Séquedin. Alors Séquedin, c'est pas exactement, si vous voulez, un lieu de vacances. On va rencontrer un CVO. Qu'est-ce que c'est ? C'est un centre de valorisation organique. Et François Flamand est avec nous. Enfin, plutôt, je suis avec lui. Nous sommes dans la proche banlieue de Lille, dans le département du Nord. Alors, on voit une belle bâtisse, on voit des bus qui sont pas loin de nous et des bus qui vont rouler aux déchets. Alors, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, François Flamand ?
Alors, effectivement, ici, vous êtes sur le site du centre de valorisation organique de Séquedin. Donc, c'est une usine qui va valoriser les déchets ménagers, mais principalement les déchets organiques qui sont collectés chez les usagers de la métropole lilloise.
C'est-à-dire, en fait, tout ce qui part habituellement, on va dire, soit dans un incinérateur, soit dans une décharge, ou bien alors que l'on peut composter éventuellement quand même aussi.
Alors, ce sont effectivement des déchets que l'on peut composter, les reliefs de repas, les préparations de repas aussi, hein, les diverses épluchures de préparation. Ce sont les tontes de pelouse, ce sont les tailles de haies, ce sont les coupes d'arbres, ce sont aussi les reliefs de déchets de restauration collective que l'on collecte. Et donc tous ces déchets, on les rentre dans cette installation et on en récupère le biogaz pour en faire un méthane carburant et on en fait du compost pour que cette matière puisse repartir en valorisation sur en valorisation agricole.
Les agents de la méthanogenèse sont des micro-organismes organisés en groupe et chacun de ceux-ci exerce une fonction spécifique.
Qu'est-ce que l'on en fait donc après ? Effectivement, donc ceci arrive dans cette usine.
Alors, avec le biodéchet qui rentre dans l'installation, on va faire deux choses. On va faire une première chose, on va récupérer du biogaz brut. Et ensuite, on va faire du compost avec ce qui reste. Donc le biogaz brut, lui, nous allons l'épurer. Et c'est ce qui va nous servir à faire ce que l'on appelle un méthane carburant. Et donc qui, à terme, nous permettra d'alimenter l'équivalent d'une centaine de bus de la métropole lilloise.
Oui, ce qui fait qu'en fait, les bus là, que l'on voit, en fait, ils pourront directement être branchés sur la sortie d'usine.
Oui, alors c'est l'une des raisons pour laquelle le dépôt de bus... que l'on voit a été construit juste à côté, donc à peine 50 mètres du centre de valorisation organique.
Cette action produit des molécules simples et celles-ci sont solubles dans le milieu.
Il faut combien de temps lorsque l'on a par exemple effectivement ces biodéchets qui rentrent et après pour qu'ils se transforment en méthane ?
En fait,
comment ça se passe,
le phénomène de méthanisation s'effectue très rapidement, 2 jours après que le déchet rentre dans l'installation. Donc on estime en fait que ce sont dans les 3 premières semaines, quand au moment où la matière rentre dans l'usine, c'est là où on récupère le méthane.
D'accord.
Nous avons ainsi décrit les étapes principales du mécanisme de la biométhanisation, que l'on appelle aussi digestion anaérobie.
Alors, ce qui est important, c'est de rappeler aussi l'importance de ce méthane, c'est-à-dire que s'il était en décharge, souvent, il y a quand même de la dissipation de ce méthane, et le fameux CH4, il est quand même 20 fois plus violent, on va dire, que le CO2, qui est déjà pas triste, et donc c'est aussi une manière de le récupérer.
Alors, oui, effectivement, puisque nous, sur l'installation... Le biogaz brut donc que l'on va récupérer en tête de méthaniseur, il est chargé environ 54% de méthane et notre process d'épuration permet d'augmenter sa concentration à environ 98% et donc d'en faire un gaz qui a des caractéristiques telles que le gaz naturel qu'on peut trouver dans les réseaux gaz de France. Et donc effectivement, à partir de là, on part du principe que les bus au gaz peuvent être alimentés avec ce type de biocarburant.
Alors qu'est-ce que ça représente quand même comme volume ? Parce que je crois que vous êtes la première usine européenne en taille. Les Allemands ont déjà commencé, mais c'est peut-être plus petit chez eux.
Alors, à voir s'il n'y a pas d'autres projets qui se sont développés, puisqu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, de nombreux projets de méthanisation sont en train de se développer. Et donc, en termes de taille, effectivement, nous, on est dimensionné pour traiter 108 000 tonnes de biodéchets par an.
D'accord.
Il y a d'autres usines en France qui ont des capacités de traitement plus importantes, mais ce sont des usines qui sont... sur du traitement d'ordures ménagères brutes,
okay,
et non pas de biodéchets comme c'est le cas chez nous.
Alors, j'ai quand même vu des chiffres tout à fait impressionnants parce qu'on à plein régime ça ferait 110 000 tonnes donc, par an, c'est-à-dire que c'est l'équivalent on va dire d'un terrain de foot, j'ai vu ça avec la hauteur de la tour Eiffel.
Alors la capacité de traitement du centre de valorisation organique c'est effectivement plus exactement 108 000 tonnes par an.
Combien de communes sont impliquées dans l'affaire ?
Alors, ce sont les 85 communes de la communauté urbaine de Lille.
Okay. Et donc c'est toutes celles-là opèrent donc ce tri. Alors, on l'estime comment ? C'est-à-dire, s'il y a encore beaucoup de gens qui sont réticents à ce fameux tri de biodéchets ou bien ça va bien, ça ?
Bon, alors, la mise en place d'une collecte sélective sur une communauté urbaine où il y a un peu plus de 1 200 000 habitants, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Donc les premières communes qui ont été développées en collecte sélectif, ça a été au début des années 90. Et puis ça s'est fait successivement jusqu'à se terminer aujourd'hui, plus dans les communes hypercentres, où là il y a d'autres problématiques de densité qui font qu'on a mis plus de temps à développer la collecte sélective.
Merci à vous, donc François Flamand, vous êtes le chef de projet de ce centre de valorisation organique. Donc voilà, c'était notre deuxième initiative. Et puis merci aussi à Caroline Lebossé, notre marisatrice aujourd'hui, qui a donc agrémenté ces deux petits reportages. On se retrouve dans quelques instants, ce sera juste après Sadiq.
Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
Faudrait venir l'été.
Parce que tu trouves ça calme, ça.
Ah oui.
Il commence à me taper sur le système, ces oiseaux.
CO2, mon amour, Denis Chesson.
Ah oui, il termine en faisant un petit gargarisme. Ça ne fait pas de mal pour la voix. C'était donc Saadic sur France Inter. Donc deux initiatives déjà réalisées. Donc avec ce centre de Sequedin, Thierry Touvenot. Et là maintenant, on va s'intéresser un peu de prospective. Le vélo en ville, c'est vrai qu'on en parle quand même relativement peu. Et donc on va interroger Serge de Pelletier, qui est ancien ministre de l'Environnement, qui est maire de Bourges et qui est aussi le vice-président du club des villes et des territoires cyclables, qui regroupe quand même 1000 collectivités, pas des moindres. Alors en fait, Serge de Pelletier, vous faites la promotion du vélo sous toutes ses formes, c'est un peu ça ?
Oui, c'est vraiment le vélo dans la cité, au sens de urbain, mais aussi de rural. L'une des difficultés qu'on a en matière de vélo, c'est au fond de faire le lien entre tous les équipements qui peuvent être faits. Très souvent, quand les communes commencent à beaucoup investir, ben elles font une voie cyclable, et la voie cyclable, elle s'arrête, oui. Et elle n'est pas liée à une autre. Et donc, à un moment donné, le cycliste, il en a marre, et la personne ne reprend plus son vélo.
Oui, parce qu'on sait que c'est à partir des infrastructures que l'on va inciter les uns et les autres à pratiquer la bicyclette.
Oui, c'est vraiment par les infrastructures, par aussi des services. On le voit bien à Paris avec Vélib, le service apporté à la population a fait évoluer considérablement l'utilisation du vélo. Mais avant, il faut évidemment l'infrastructure, parce que sans l'infrastructure, d'abord, on est en danger, et puis il y a une question de facilité. Mais les infrastructures, c'est très, très coûteux.
Serge Le Pelletier, par rapport au plan de relance en général, que représentent ou représenteraient donc ces aménagements cyclistes ?
Pour mettre une politique vélo dans le plan de relance, c'est quasiment marginal. Aujourd'hui, le plan de relance, c'est 26 milliards d'euros. Si je regarde ce que les collectivités investissent en politique cyclable par an, c'est environ 300 millions d'euros. Donc si l'État met 20% pour pousser, je dirais qu'avec 30 ou 50 millions d'euros, on doit pouvoir vraiment faire participer la politique cyclable à la relance. Alors vraiment, on est à l'épaisseur du trait.
Mais ça voudrait dire que toutes les grandes agglomérations, toutes les grandes villes pourraient donc avoir ces infrastructures avec cette somme-là ou...
Oui, si elles le souhaitent. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est absolument accélérer, augmenter la politique des villes. Donc aujourd'hui, on est à 300 millions d'euros. Si on met encore une fois 20%, on doit pouvoir, avec 30 ou 50 millions d'euros, arriver à presque doubler cette politique. Donc c'est tout à fait considérable. Alors après, ça sera le choix de chaque collectivité. Mais en tout cas, il faut lui en donner les moyens et la possibilité si elle le souhaite.
Ça relève de quoi ? Du ministère du Développement Durable ? Ou bien est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a une madame, il y a un monsieur Vélo qui a été nommé ou...
Oui, il y a un monsieur Vélo, un délégué interministériel au vélo qui dépend en particulier du ministère de l'écologie et du développement durable. Mais au fond, cette décision, elle relève à la fois du ministre de la Relance, bien sûr, mais aussi du ministre du Budget et puis du ministre de l'écologie.
Qu'est-ce que l'on constate en matière de décongestion lorsque l'on est sur un vélo ? On a tendance à dire que 5% des gens qui font donc un report modal, comme on dit, permet effectivement une plus grande fluidité après dans la ville.
Ça permet une plus grande fluidité, puisque un vélo, ça remplace le plus souvent une voiture. Donc ça, en termes de concentration urbaine, c'est évidemment très important. Mais ça apporte beaucoup à la personne également. Toutes les analyses montrent que quelqu'un qui fait du vélo est en meilleure santé. Parce qu'en fait, le vélo, c'est un sport sans qu'on s'en aperçoive. Quand on en a l'habitude, quand on n'en a plus l'habitude et qu'on reprend le vélo, on s'aperçoit tout de suite que les muscles peinent. Mais quand on a l'habitude, on ne s'en aperçoit plus. Et ça participe à l'hygiène de vie.
À une époque, on va dire que le vélo, c'était ringard. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Bon.
Non, c'est à la mode. Mais le gros problème que l'on a, c'est la différence entre vélo loisir, c'est-à-dire le week-end, au fond, où là, il n'y a plus de difficultés. Non. Là, tout le monde s'y met, tout le monde a du plaisir à le faire, et le vélo utilitaire, c'est-à-dire le prendre son vélo
transport en commun.
Oui, pour aller au travail le matin. Et on sait que le vélo utilitaire vient quand on a refait du vélo, c'est-à-dire par le vélo loisir. Donc il faut faire comprendre à l'ensemble des décideurs que des équipements pour les vélos loisirs, notamment les liaisons vertes que l'on peut faire en liaison entre le chef-lieu de département et d'autres communes, qui ne sont utilisées, c'est vrai, que le week-end, mais ça apporte parce que les personnes concernées, du coup, elles reprennent leur vélo la semaine.
Et oui, on vous le dit, c'est un truc du présent et de l'avenir, le vélo. Non, c'est pas ringard. Mais oui, il va falloir quitter le changement de vitesse. Ah, quel drame, c'est terrifiant en ville. Bon, écoutez, on va poursuivre notre voyage. Et là, cette fois-ci, on va aller dans un jardin avec Julie Vincent, qui représente Noé Conservation. Julie, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes à la fois auditrice de CO2 Mon Amour, mais surtout avec Arnaud Grèce, vous êtes un petit peu l'âme de Noé Conservation. On pourrait se dire que le camarade Noé, aujourd'hui, s'il devait nous refaire le coup de l'arche, il y aura à peu près la moitié des espèces en moins dans son arche parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de cas, cette disparition. Et puis vous, ce que vous essayez de faire, c'est remettre la biodiversité, on va dire cette trame du vivant, du végétal et de l'animal vraiment, vraiment en place. Alors les jardins de Noé, qu'est-ce que c'est les jardins de Noé ?
Alors, les Jardins de Noé, c'est une toute récente initiative donc de Noé Conservation qu'on a lancée il y a à peu près 3 semaines. L'idée, elle est très très simple. Il y a à peu près 1 million d'hectares de jardins en France. C'est une superficie importante qu'on pourrait tous dédier un peu plus à la biodiversité. Et le concept, il est simple, essayer de faire de tous ces jardins un réseau, que tous les jardins et les jardiniers se tiennent la main pour dédier un peu plus leur jardin à la biodiversité. L'idée, elle est simple. On a une petite charte avec 10 points, 10 engagements. Je laisse un petit coin en friche, je fais un compost, j'installe des nichoirs, des choses comme ça. Et c'est une démarche volontaire. J'espère qu'il y aura un maximum de jardiniers qui s'engageront à nos côtés pour créer un très grand réseau de jardins dédiés à la biodiversité.
Donc l'idée, c'est ça. C'est une communauté de jardiniers qui s'engagent à être, on va dire, éco-responsables. Et Dieu sait, heureusement, pour souvent, ils le sont. Juste un petit rappel sur les pesticides. Ayez la main beaucoup moins lourde lorsque vous êtes dans votre jardin, parce qu'on consomme quand même pas loin de 8% de la consommation totale de produits phytosanitaires dans nos jardins. C'est beaucoup trop. Et lorsque l'on parle de science participative, là aussi, ça fait partie d'un des engagements des jardins de Noé. C'est-à-dire que depuis 3 ans, on s'est mis tous à compter les papillons. Donc ça a très très bien marché, hein, c'est ça. Et donc on continue, c'est ça,
voilà. On continue. Donc c'est un programme qu'on a lancé il y a 3 ans avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et la Fondation Nicolas Hulot. L'idée, elle est encore très simple, c'est de demander aux gens de nous aider à compter les papillons, à avoir une meilleure connaissance de la biodiversité, des espèces, de leur répartition, etc. On a commencé il y a 3 ans sur les papillons. Ça a très très bien marché. On a à peu près 4000 jardins qui tous les ans nous envoient des données. On commence à avoir des cartes passionnantes. Ça permet aussi de communiquer toujours sur ce thème du jardin, d'inciter les gens à jardiner autrement. En comprenant l'intérêt, l'impact d'une façon autre de jardiner. Et puis cette année, on a lancé un petit dernier. Ah. On s'intéresse en plus des papillons aux escargots.
Ah bah oui. Oui, non, réhabilitons la vitesse. Allons-y avec l'escargot, absolument.
Exactement,
oui,
puisque oui. L'escargot se balade à peu près à 4 mètres par heure. Donc on a plus le temps de l'observer par rapport au papillon qui, lui, file parfois un peu vite dans nos jardins. C'est des petites bestioles très sympathiques, même si tous les jardiniers n'ont pas toujours la même vision des escargots. L'idée, là aussi, on est dans...
C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les limaces. C'est surtout les limaces qu'ils n'aiment pas.
Oui, les escargots parfois aussi, mais ouais, c'est surtout les limaces. Ouais. Et sur les 31 espèces qu'on peut compter dans son jardin, il y a 5 sortes de limaces. On est toujours dans l'idée de faire redécouvrir cette biodiversité de proximité. Il faut savoir qu'il y a plus de 400 espèces d'escargots en France, donc c'est relativement important. On dit toujours l'escargot avec un singulier, mais c'est les escargots, il y en a tout un tas.
Ce qu'il faut dire, pardonnez-moi Julie, c'est que comme en fait, c'est important, pourquoi ? En fait, tous ces gens-là apportent des données scientifiques, parce qu'il y a de moins en moins de professionnels, malheureusement. Absolument. Dans ce domaine, et que donc après, pour les papillons, vous en êtes à plus de 800 000 données, ce qui fait que vous avez une carte de répartition extrêmement précise. Absolument. Et ça fait vraiment aussi avancer la connaissance. Alors, comment on fait ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces infos, on les envoie sur Internet à travers le site Noé Conservation, comment ça se passe après ?
Absolument, donc c'est un petit protocole très simple qui est vraiment adapté au grand public, hein, parce que vous avez aussi des suivis, des inventaires très, très scientifiques,
bien sûr,
plus compliqués.
Oui, oui.
Donc là, c'est grand public, donc c'est très simple. On va sur notre site internet www.noeconservation.org. C'est un protocole, on n'est pas obligé de compter tous les mois. On compte les papillons et les escargots dans son jardin. Et puis régulièrement, tous les mois ou tous les 3 mois pour les escargots, on va sur notre site internet pour saisir les données. Les données, elles basculent ensuite côté muséum.
Et après, donc, elles sont moulinées. Écoutez, un grand merci à vous, Julie Vincent. Donc, on l'a, hein, le site de Noé Conservation sur celui de CO2 Mon Amour, si vous n'avez pas eu le temps de le noter. Non pas bonne chasse aux papillons, mais bonne chasse aux informations. Et puis, merci à vous, Julie. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
« J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, de vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Feu rouge dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Sois ma raison avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Mais j'y pense, le 16 mai, on fera une émission autour des jardins. D'abord, ce sera la journée de la fête de la nature. Et puis, donc, on fera aussi une émission autour des jardins. Ce sera pour le 16 mai. Ah, bah tenez, une petite séquence qui ne peut ne pas plaire à tout le monde. Bah non, qui va pas plaire à tout le monde, justement. On y va.
Distribution des prix. Carton rouge, carton vert.
Eh oui, avec un 01 56 40 40 35 qui est parfaitement en état de marche. Et voici donc les messages qui nous sont arrivés.
Bonjour Denis, deux coups de gueule aujourd'hui parce qu'il y en a un petit peu marre. Des massacres à la tondeuse et à la débroussailleuse dans des petites prairies, des petits coins fleuris où tout y passe alors que se reproduisent les papillons, les oiseaux. Laissera-t-on un jour la paix à toute cette faune, toute cette flore au moment où des tas d'espèces disparaissent? Donc ça, c'est le premier message, parce que je trouve que les gens devraient un peu mettre les tondeuses au garage et des broussailleuses au garage et être un petit peu plus attentifs à toute la vie qui s'exprime dans ces milieux qui sont autour de chez eux. Le deuxième coup de gueule me tient particulièrement à cœur, car c'est une opération qui, hélas, continue dans toute la France. C'est les arrachages de haies, pas plus tard que vendredi dernier. Une haie était encore arrachée au moment où se reproduisent les oiseaux, là aussi. Tout ça, c'est la politique agricole qui continue et qui n'encourage pas les agriculteurs à garder le bocage, à garder les arbres champêtres. Et je trouve qu'au moment où on parle de biodiversité, qu'on continue encore par la PAC ou par d'autres mesures incitatives à pratiquer une agriculture qui fasse table rase des arbres, je trouve ça absolument invraisemblable. Il existe maintenant depuis 3 ans une association nationale, l'Association française des arbres et haies champêtres. Et elle essaie de travailler à l'échelon national. Et il faut absolument que cette association arrive à faire en sorte que les agriculteurs replantent des haies, gardent leurs haies, parce que c'est l'avenir de nos sols, c'est l'avenir de nos nappes phréatiques, c'est l'avenir de la biodiversité. C'est, pas l'oublier, 2 millions de kilomètres de haies qui ont été arasés au nom d'une politique qui mène là où on en est. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.
Merci à vous. Dominique Mention à Bourset, donc dans le Loir-et-Cher, qui s'occupe de la maison botanique. Là aussi, vous aurez les informations sur notre site. On part dans le Gard.
Bonjour, je viens vous parler au nom d'un collectif éco-citoyen. Je vais vous parler du cirque de Navacelles. C'est dans le Gard, au sud de la France. C'est un superbe endroit où nichent l'aigle royal, le hibou grand-duc, le cirque de Jean Leblanc et j'en passe. Le cirque de Navacelles accueille 200 000 visiteurs par an. Et cette manne financière intéresse beaucoup notre communauté de communes qui propose un projet démesuré d'aménagement touristique. Ce projet comprend l'installation d'une volerie avec plus d'une centaine de rapaces. Rapaces qui viendraient menacer directement ceux qui nichent actuellement dans le secteur. Le tourisme de masse qu'amènerait cette volerie aurait en plus un impact très négatif sur la biodiversité. Évidemment, il n'y a eu aucune concertation avec la population locale qui ne se sent pas représentée. Les chasseurs, les naturalistes, les citoyens, tous amoureux de cet endroit, ont signé une pétition contre l'ensemble du projet. J'espère que ce message permettra de faire évoluer les décisions dans le sens de la population concernée. On ne veut pas de cirque dans notre cirque.
Président de la Ligue pour la protection des oiseaux, le complément d'Alain Bougrain-Dubourg.
Ça pose des problèmes d'abord d'aménagement pour le site, mais surtout nous concernant à la LPO, du fait qu'on va lâcher des oiseaux qui reviennent en principe sur le fauconnier, mais qui vont polluer le comportement des oiseaux, des aigles royaux et autres qui existent déjà. Oui. Et ça, on n'a pas besoin de ça. J'ajoute qu'en plus, exhiber des oiseaux captifs, même si on les fait voler, certainement, bon, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux à faire. C'est un peu comme les delphinariums. Alors, on peut travailler avec ces gens-là, mais pas n'importe comment, et surtout pas n'importe où. Alors, il ne faut pas que ce projet se fasse. C'est pas raisonnable, c'est pas bien. On a une autre perception de la nature aujourd'hui, pas celle d'exhiber des oiseaux captifs et de faire du pur spectacle, même si derrière, on prétend qu'on fait passer un pseudo-message pédagogique.
Alors, un autre petit carton rouge, 01 56 40 40 35. Vous aimez la scène calme et paisible? C'est loupé.
Oui, bonjour, Jean-Paul Camberlin, pour le collectif Stop 24 heures, les 24 heures motonautiques de Rouen. Sachez-le, du samedi 2, 16h au dimanche 3 mai, 16h à Rouen, une cinquantaine de canots à moteur vont tourner en rond sur la Seine autour de notre île, l'île Lacroix. Pendant 24 heures, ils vont gaspiller quelques 40 000 litres de carburant. Comble de l'indécence, cette année, les annonceurs, officiels, financeurs, sponsors et organisateurs, revêtent le faux nez d'une soi-disant sensibilité écologique. Qu'on en juge, ils annoncent le recours aux biocarburants qualifiés d'essence propre, au pseudo moteur propre. Question, est-ce que ça existe, un moteur thermique propre ? Au nettoyage du site, après cette manifestation, comme si éliminer ces déchets n'était pas un geste citoyen élémentaire. Alors nous ne sommes pas dupes de ce vernis écolo, et nous pensons que la Seine a d'autres utilisations bien plus nobles que de servir de terrain de jeu à ces grands gamins, ignorant des incontournables enjeux environnementaux, climatiques, énergétiques, auxquels nous devons tous faire face. Alors on nous rétorque aussi l'argument fallacieux, mais cela fait avancer la technologie. Mais la guerre aussi fait avancer la technologie. Cela justifie-t-il les déclarations de guerre? En 2010, l'accord entre la ville de Rouen et le Yacht Club tombe. Nous avons espoir que la ville ne le renouvelle pas et remplace ces polluants ronds dans l'eau par une belle fête éco-nautique, joyeuse, une fête porteuse de projets innovants avec des bateaux électrosolaires pour montrer que l'on peut à la fois se divertir et s'affranchir des énergies fossiles. Je vous remercie.
Carton vert.
Qui nous emmène dans une ancienne zone industrielle polluée et inondable qui est située dans la courbe du Doubs. Donc nous sommes face à la citadelle de Vauban, nous sommes à Besançon. Et la ville de Besançon en fait souhaite réhabiliter cette zone qui accueillera plus tard une promenade. Alors comment fait-on ? Eh ben, on appelle les plantes, on appelle les plantes à la rescousse. Jean-Louis Ducreux, bonjour.
Bonjour Denis Chessou.
Vous êtes directeur de l'atelier d'écologie urbaine et oui. Vous vous occupez de ce qu'on appelle de cette phytoremédiation. Donc qu'est-ce que l'on va faire sur ce site pour le dépolluer ?
Alors, ce que l'on va faire, donc, c'est un site qui fait une vingtaine d'hectares. À l'heure actuelle, c'est une friche industrielle avec des bâtiments, des friches herbeuses, des friches diverses. Et donc, ce que l'on va faire, c'est construire un projet avec une centaine de logements nouveaux et puis un parc.
Mais il faut que le terrain soit sain, donc on va le dépolluer.
Voilà, il faut que le, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que le terrain soit compatible avec l'usage que l'on veut en faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas le dépolluer de la même façon là où on aura des promenades ou là où on aura des bâtiments.
On appelle les plantes à la rescousse ?
Alors on va appeler non seulement les plantes à la rescousse, mais tous les écosystèmes. C'est-à-dire que ce que l'on veut mettre en place, c'est de la phytorémédiation, c'est-à-dire utiliser le pouvoir épurateur des écosystèmes.
Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Par exemple, on va utiliser de l'orge, de l'avoine ?
Alors, on va utiliser tout un tas de plantes supérieures et également des petites bactéries qui vont faire leur petit boulot au niveau des racines. Si vous voulez, les racines des plantes, c'est une véritable usine. Vous avez tout un tas de petites bactéries, les plantes qui injectent de l'oxygène, qui vont distribuer des enzymes dans le sol, et tout ça, ça fait une véritable usine biologique. Et avec ça, on arrive à dégrader un certain nombre de polluants, comme les hydrocarbures, et on peut stocker, on peut dégrader ou séquestrer, c'est-à-dire les rendre inertes, un certain nombre de métaux.
Est-ce que c'est une alternative économique ?
Bah, écoutez, là, on a un petit peu une grande chance avec la ville de Besançon, si vous voulez. On a un projet qui prend du temps et qui est un projet vert. Donc on s'est dit, on va sûrement avoir des gens qui vont faire ça beaucoup plus vite et pour beaucoup plus cher. Et nous, on a gagné, je dirais, un petit peu à cause de ça, c'est qu'on prend notre temps et on laisse la nature reprendre ses droits. Donc économiquement, c'est beaucoup moins cher que de faire des travaux de terrassement et d'envoyer tout ça dans des décharges. Nous, ce que l'on essaye, c'est vraiment de faire une dépollution la plus douce possible et surtout qui sera adaptée aux différents usages.
Voilà, merci donc à vous. Et puis à signaler quand même que la ville de Besançon est assez en avance sur tous ces problèmes de développement soutenable. Je dis bien développement soutenable. Et la région Franche-Comté vient aussi d'élaborer son plan climat. Et donc là aussi, sur les problèmes d'énergie, on y pense. Merci à Loïc Frapsoz et Pierre-Yves de Rolin qui étaient aujourd'hui avec nous à la technique, à Sophie Ledoré, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, et Caroline Lebossé qui a réalisé cette émission.